France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
À mesure que nous avions approché de la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant « Taïo », qui veut dire « ami », et en nous donnant 1000 témoignages d'amitié. Ils ne savaient comment exprimer leur joie de nous recevoir.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous n'avions jamais parlé ici de Tahiti. Tahiti, dont la chronique est pourtant d'une richesse foisonnante. Elle l'est tout à la fois dans l'ordre des réalités les plus concrètes, éventuellement les plus brutales, et dans l'ordre du rêve, depuis que les Européens, navigateurs audacieux, ont pu, au XVIIIe siècle, y aborder. Je saisis donc l'heureuse occasion du beau livre que vient de publier Antoine Lilti, professeur au Collège de France, un maître des études sur l'époque des Lumières. Il y traite un sujet très neuf, sous un titre qu'il va nous falloir expliciter, l'illusion d'un monde commun. Son propos est de retracer, au service d'une réflexion au long cours, l'histoire des quelques Polynésiens qui ont été transportés en Europe par les navigateurs illustres qui explorèrent alors le Pacifique, au premier rang desquels James Cook et Antoine de Bougainville. Par-delà ce qu'on peut restituer de la personnalité de ceux qui ont été ainsi déracinés, c'est la nature même de cette rencontre qui est fascinante, avec le jeu de miroirs déformants qu'elle implique entre curiosité ardente et incompréhension manifeste. Les philosophes et les savants réagissent passionnément à la confrontation avec cette altérité culturelle. Les encyclopédistes, tout spécialement, sont au premier rang dans les débats multiformes sur la grande question d'une unité possible de l'humanité. Une relecture du fameux supplément au voyage de Bougainville, rédigé par Diderot, peut réserver dans ce champ des surprises. Plus tard, au siècle suivant, lorsque s'effaceront les controverses philosophiques et que s'émoussera l'étrangeté des voyages planétaires, le temps viendra entre Loti, Gauguin, Ségalène et quelques autres de la littérature et de la peinture voués à prendre le relais de l'imaginaire. Et cela d'une façon assez vigoureuse pour entretenir nombre des fantasmes que le temps des Lumières avait commencé de faire prospérer. Et d'abord un extrait du journal de Bougainville lu par Jean Topard.
Une brise de l'ouest qui s'éleva dans le même instant nous rendit l'espérance. En effet, elle fraîchit peu à peu, et à 9h du matin, nous étions absolument hors de danger. Je ne saurais quitter cette île fortunée sans renouveler ici les éloges que j'en ai déjà faits. La nature l'a placée dans le plus beau climat de l'univers, embellie des plus riants aspects, enrichie de tous ses dons, couverte d'habitants beaux, grands, forts. Elle-même leur a dicté des lois, ils les suivent en paix, et forme peut-être la plus heureuse société qui existe sur ce globe. Législateurs et philosophes, venez voir ici, tout établi, ce que votre imagination n'a pu même rêver. Un peuple nombreux composé de beaux hommes et de jolies femmes, vivant ensemble dans l'abondance et la santé, avec toutes les marques de la plus grande union, travaillant peu, jouissant de tous les plaisirs de la société, de la danse, de la musique, de la conversation, de l'amour, enfin. Le seul Dieu auquel je crois que ce peuple sacrifie. Au reste, il est à souhaiter pour les habitants que la nature leur ait refusé les objets de la cupidité européenne. Ils n'ont besoin que de fruits que la terre y prodigue sans culture. Le reste, en nous attirant, leur attirerait tous les maux du siècle de fer. Adieu, peuple heureux et sage, soyez toujours ce que vous êtes. Je ne me rappellerai jamais sans délice le peu d'instants que j'ai passé au milieu de vous, et tant que je vivrai, je célébrerai l'heureuse île de Cythère. C'est la véritable utopie.
Antoine Lilti, bonjour.
Bonjour.
Jean Topard, donc, lisait cet extrait du journal de Bougainville dans l'émission « Tahiti ou le mythe de l'âge d'or » de Nadine Lefébure sur France Culture, le 6 décembre 1968. D'emblée, je voulais lui donner la parole à votre cher Bougainville. C'est le versant favorable, c'est le versant qui marque l'attrait irrésistible de ces îles fortunées. Ce n'est pas l'autre volet qui réfléchirait au bienfait de la connaissance d'une certaine façon imposée. Cette tension est constamment présente dans votre analyse.
Oui, alors ici on a vraiment les notes de Bougainville au moment où il repart de Tahiti et où il est, on le voit, totalement sous le charme. On est un exemple parfait d'idéalisation complète de l'île. Il faut rappeler, il le dit, à la toute fin, Bougainville a passé très peu de temps à Tahiti, il a passé 10 jours. Et ce très court séjour va profondément marquer les esprits européens parce que ce qu'il écrit ici, ce qu'on vient d'entendre, eh bien, il va le raconter à Paris, il va le raconter dans la bonne société, il va le raconter aux savants qu'il fréquente, et puis il va l'écrire ensuite dans son récit de son voyage. Et ça va être profondément inscrit, cette idéalisation d'une société de la nature, d'une société heureuse, une société qui vit dans le bonheur simple de l'amour, hein, on l'a entendu, et de la nature. Et évidemment, c'est aussi un texte qui est marqué par beaucoup de malentendus et d'incompréhension de la société polynésienne.
C'est le bon sauvage.
Ah oui, là, c'est le très bon sauvage, le beau sauvage. Vous avez entendu aussi hein, cette insistance qui est très importante sur la beauté de ces populations, et c'est surtout le sauvage heureux. Bougainville projette en réalité sur cette société qu'il découvre. Il projette au fond toute une série de fantasmes européens et de fantasmes des Lumières, c'est-à-dire, d'une part, on l'entend à la fin, voilà la véritable utopie, donc référence évidemment au texte de Thomas More, mais plus généralement cette idée de ce peuple vivant proche, au plus près de la nature, eh bien, ce sont des projections, des idéaux européens, bien plus qu'une volonté de compréhension précise des mécanismes sociaux et politiques à Tahiti. Alors, évidemment, il y aura d'autres moments. Bougainville lui-même et puis d'autres voyageurs chercheront néanmoins à comprendre plus précisément cette société. Donc, comme vous le disiez, on a cette tension entre ce qui s'exprime ici, qui est une idéalisation, une projection des fantasmes européens, et puis de l'autre côté, néanmoins, une volonté de compréhension et de connaissance.
Le voyage est de 1766-69.
Oui.
Et on ne peut l'interpréter qu'en le resituant à l'intérieur de l'ensemble de ces sensibilités contemporaines, ce qu'on appelle d'ordinaire les Lumières, que vous avez si souvent et si bien décrit.
Oui, alors on pourrait insister sur deux points. Le premier, c'est effectivement qu'on entend ici dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est l'importance de la réflexion sur les bienfaits et les limites de la civilisation. C'est un des grands débats des Lumières qui oppose ceux qui pensent que le progrès historique, le développement des cours, le développement du commerce, le développement de la politesse sont des bienfaits et apportent les arts, les lettres, un raffinement de la vie sociale, un apaisement des relations sociales. Bon, Voltaire, par exemple, est la figure emblématique de cette pensée. Et puis, de l'autre côté, on a tous ceux qui s'inquiètent, en réalité, du développement de la civilisation, qui voient l'apparition de la corruption, qui insistent sur le développement d'une économie commerciale, l'idée que les Européens sont en train de se fabriquer de faux désirs, qu'ils sont en train de perdre en moralité. Alors évidemment, on sait bien que dans la pensée des Lumières, le grand promoteur de cette théorie, c'est Jean-Jacques Rousseau, avec son discours sur les sciences et les arts, puis son discours sur l'origine de l'inégalité. Et donc c'est important parce que ce débat, au fond, les sauvages sont-ils des barbares qui doivent être civilisés ? et donc qui sont pensés comme inférieurs, ou au contraire sont des peuples qui rappellent la vertu et la nécessité d'une société proche de la nature, c'est un des grands débats du XVIIIe siècle et des Lumières. Et donc c'est évidemment à l'arrière-plan de tous ces voyages. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a une très grande curiosité pour le Pacifique. Il y a cette idée qu'il existe, il y a cette croyance très forte chez beaucoup d'auteurs qu'il existe au sud du Pacifique un nouveau continent, un continent qui n'a pas encore été découvert, et que le grand progrès scientifique qui attend les Européens, c'est la découverte de ce continent qu'on appelle le continent austral. Et les plus grands savants de l'époque pensent qu'il existe une humanité différente, une humanité nouvelle à découvrir dans le continent austral, de la même manière que les Européens avaient découvert l'Amérique au XVIe siècle. Donc toutes ces explorations, celles de Bougainville, celles de James Cook, qui essayent de descendre le plus au sud possible dans le Pacifique, ils ont découvert la Polynésie, mais ce n'était pas leur objectif. Leur objectif, c'était de découvrir un nouveau continent, le continent austral.
Il y a aussi une fascination pour le Nord, et le fameux voyage de Maupertuis qui se déguisait en lapon pour aller vers le Nord et vérifier la fameuse théorie sur la nature exacte du globe terrestre.
Absolument. On est dans Maupertuis au Nord, la Condamine en Amérique du Sud. On est dans un grand moment des voyages d'exploration, qui sont à la fois des voyages scientifiques, dans le cas de Maupertuis ou de la Condamine, qui sont aussi des voyages à vocation commerciale et impériale, hein, dans le cas des voyages dans le Pacifique. On est dans un moment de rivalité très forte entre la France et l'Angleterre. Il s'agit de découvrir le monde, de l'explorer. Il s'agit aussi de prendre des positions pour le commerce. Et notamment, ce qu'ils ont derrière la tête, c'est le commerce de la Chine. Hein, puisqu'on est au moment où on commence à vouloir faire de la contrebande avec le commerce chinois. Et l'idée d'avoir dans le Pacifique des alliés ou peut-être même des bases, c'est évidemment un horizon important.
Toujours s'entremêlent les passions intellectuelles et les aspirations plus concrètes. En tout cas, vous citiez Voltaire à propos de Maupertuis, il a ce bref poème qui pourrait s'appliquer aussi à Bougainville. « Ce globe mal connu qu'il a su mesurer devient un monument où sa gloire se fonde. Son sort est de fixer la figure du monde, de lui plaire et de l'éclairer. » Lui plaire, l'éclairer, il me semble que nous avons déjà là très clairement, même dans ces deux verbes, l'ambiguïté que vous développez dans votre ouvrage.
Les Européens de la moitié du XVIIIe siècle se pensent justement comme des savants, des explorateurs savants, et pas du tout comme des colonisateurs. Au contraire, ils mettent en avant leur respect des populations locales, leur volonté de connaissance. Et de fait, il y a un désir savant très important, et puis de compréhension de ces sociétés. Et en même temps, évidemment, ils sont pris aussi dans une autre logique, qui n'est plus celle de la gloire de la science, mais qui est celle d'une part de la rivalité impériale, et d'autre part, au fond, d'une curiosité pour ces sociétés qui n'est pas une véritable, ce qu'on appellerait aujourd'hui une véritable curiosité ethnographique ou anthropologique. Il y a toujours cette tentation d'en faire simplement des objets de fantasmes davantage que de véritables partenaires d'échange.
Et puis vous évoquez aussi ce que vous appelez un trope. Il faut expliciter cela, c'est-à-dire l'idée que le voyage dans l'espace incarne une sorte de voyage dans le temps, puisque en allant très loin, on va aussi très loin jusqu'aux origines de l'humanité.
Absolument, c'est cette idée effectivement que le déplacement vers des territoires lointains permet de découvrir, on l'entendait bien tout à l'heure dans le texte de Bougainville, mais tous le diront, et ce sera même le fondement en fait de l'anthropologie naissante à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ces voyages dans l'espace permettent de découvrir des sociétés qui renvoient les Européens à leur passé.
Cette histoire du voyage de Bougainville est marquée par un grand moment philosophique, c'est la rédaction, puis la publication large du grand ouvrage que vous aimez tant, Antoine Lilti, visiblement, de Denis Diderot, qui s'appelait « Le supplément au voyage de Bougainville ». Je vais vous en donner un extrait. C'est un dialogue imaginaire entre A et B, deux personnages. Il faudrait que vous nous éclairiez cela. A est interprété par Jean Rochefort et B par Julien Berthaud. C'est une émission de France Culture le 12 mars 1968.
Avez-vous vu le Tahitien que Bougainville avait pris sur son bord et transporté dans ce pays-ci?
Oui, je l'ai vu. Il s'appelait Aotourou. Bougainville a renvoyé Aotourou après avoir pourvu aux frais et à la sûreté de son retour.
Oh, Aotourou, que tu seras content de revoir ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes maîtresses, tes compatriotes. Que leur diras-tu de nous ?
Peu de choses, et qu'ils ne croiront pas.
Pourquoi peu de choses ?
Mais parce qu'il en a peu conçu, et qu'il ne trouvera dans sa langue aucun terme correspondant à celle dont il a quelques idées.
Et pourquoi ne le croiront-ils pas ?
Parce que, en comparant leurs mœurs aux nôtres, ils aimeront mieux prendre à hautour ou pour un menteur que de nous croire si fous.
En vérité ?
Je n'en doute pas. La vie sauvage est si simple, et nos sociétés sont des machines si compliquées. Le Tahitien touche à l'origine du monde, et l'Européen touche à sa vieillesse. L'intervalle qui le sépare de nous est plus grand que la distance de l'enfant qui naît à l'homme décrépit. Il n'entend rien à nos usages, à nos lois, où il n'y voit que des entraves déguisées sous 100 formes diverses. Entraves qui ne peuvent qu'exciter l'indignation et le mépris d'un être en qui le sentiment de la liberté est le plus profond des sentiments.
Est-ce que vous donneriez dans la fable de Tahiti ?
Ce n'est pas une fable. Et vous n'auriez aucun doute sur la sincérité de Bougainville si vous connaissiez le supplément de son voyage.
Et où trouve-t-on ce supplément ?
Là, sur cette table.
Est-ce que vous ne me le confierez pas ?
Non, non. Mais nous pourrons le parcourir ensemble, si vous voulez.
Assurément, je le veux.
Il y a, Antoine Lilti, un jeu intellectuel de double fond. Le supplément ne sera publié définitivement qu'en 1795. Diderot fait dire à son personnage « Le Tahitien touche à l'origine du monde et l'Européen touche à sa vieillesse ». C'est toujours ce trope que nous évoquions.
C'est ce trope que nous évoquions avec quand même ce point très intéressant chez Diderot, c'est que l'Européen touche à sa vieillesse. C'est-à-dire que l'Européen, c'est cette idée, au fond, qui est très présente au XVIIIe siècle, c'est que peut-être la civilisation européenne, malgré tous ses bienfaits, tous ses apports, est déjà allée trop loin, qu'elle est déjà entrée en décadence, qu'on a dépassé le point d'équilibre entre la nature et la société, ce qui est une chose qui nous paraît étonnante à nous aujourd'hui, parce qu'on est allé quand même beaucoup, beaucoup plus loin. Mais il y a cette idée effectivement que les sociétés européennes sont déjà des sociétés trop vieilles et qu'elles ont à apprendre du spectacle de cette enfance de l'humanité qui est représentée par les Polynésiens.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannemet.
Alors, il faut que nous en venions, Antoine Lilti, maintenant, à vos personnages, à vos Tahitiens. Ils sont deux ou trois, au moins trois. Et au premier rang, ce Aoutourou, qui est au centre de votre livre et que je voudrais que vous nous fassiez revivre.
Oui, alors, Diderot, et c'est au fond, c'est le point de départ, ce qui a au début suscité ma curiosité, parce que Diderot évoque ce Tahitien, Aoutourou, qui s'est embarqué avec Bougainville, qui a passé ensuite un an à Paris avant de repartir. Et ce qui est très intéressant, c'est que Diderot, dans un texte qui, par ailleurs, est un texte qui manifeste une volonté de réfléchir à partir de l'exemple tahitien, de produire une réflexion politique extrêmement audacieuse sur et de critique de l'Europe et de la société européenne, eh bien, dans ce texte même, Diderot évoque Aoutourou, mais pour dire immédiatement, au fond, il n'a rien pu comprendre de ce qui lui est arrivé. Hein, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il a peu conçu de choses parce que, justement, il vient de sociétés trop simples et que l'Europe est quelque chose de trop compliqué. Et ça m'a intrigué que Diderot se refuse, d'une part, à nous en dire plus sur Aoutourou, d'autre part, à prendre au sérieux l'idée qu'Aoutourou ait pu vivre quelque chose d'intéressant, ait pu comprendre ce qui lui est arrivé, ait pu être, au fond, le sujet de sa propre histoire. Diderot refuse de prendre ça en considération. Et, par ailleurs, immédiatement après ce petit extrait, qui est au tout début du supplément Voyage de Bougainville, ensuite, il va inventer des Tahitiens de fiction. L'un qui est un vieillard, qui tient un grand discours anticolonialiste à Bougainville, et puis ensuite Aoutourou, qui est une sorte de philosophe des antipodes, une sorte de porte-parole de Diderot, et qui va dialoguer avec l'aumônier de bord pour lui démontrer la supériorité de la nature et de la vie polynésienne. Mais Aoutourou, qui était présent à Paris, que Diderot a peut-être, sans doute, rencontré, eh bien, au fond, il n'en fait rien, il ne le prend pas au sérieux. Donc, à partir de là, je me suis dit, il faut justement essayer de comprendre ce qu'a été cette histoire, qui était Aotourou, pourquoi est-ce qu'il s'est embarqué.
Lui et puis un autre personnage qui est allé en Grande-Bretagne accompagné sur les navires de l'explorateur James Cook. Parlez-nous très précisément de ce qui s'est passé. Comment ces personnages ont-ils vécu ces moments de transplantation d'une dimension formidable en vérité?
Oui, alors il y a trois personnages principaux. Donc il y a Mike qui est venu en Angleterre donc avec James Cook, passé 2 ans en Angleterre, puis qui est retourné à Wainé. Et puis un autre personnage qui lui n'est jamais venu en Europe, mais qui est très important dans cette histoire, qui s'appelle Tupaya, qui était un navigateur, un grand prêtre tahitien, qui s'est embarqué avec les Anglais et qui les a conduits jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc il a joué un rôle très important parce que c'est lui qui leur a permis de communiquer avec les Maoris en Nouvelle-Zélande.
Et de découvrir que les langues avaient d'ailleurs quelques proximités.
Oui, une très grande proximité, puisqu'il arrive en Nouvelle-Zélande, à 1 000 000 de kilomètres de Tahiti, il se fait comprendre des Maoris. Donc c'est le moment où les Anglais ont compris que, contrairement à ce qu'ils avaient pensé jusque-là, il ne s'agissait pas d'îles isolées, avec des populations isolées, mais en fait d'un réseau d'îles, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle polynésien, qui appartenait à la même culture, avec des langues très proches qui leur permettaient de communiquer.
Mais alors, vos personnages, très très précisément, tels qu'on les connaît à Paris-Versailles d'un côté, pour Aotourou et pour Mai à Londres, ils sont d'ailleurs reçus de façon un peu différente, et la curiosité n'est pas exactement de même nature, et elle est plus brève à Paris.
Alors à Paris, Aotourou est accueilli avec beaucoup d'intérêt et de curiosité, mais de manière très brève. C'est-à-dire pendant 2-3 semaines, on en parle dans les journaux, on le reçoit dans les salons, on le présente à Versailles, et puis ça disparaît très rapidement. Au bout de quelques semaines, on n'a pratiquement plus aucune mention de lui. On sait par Bougainville qu'il allait à l'opéra, qu'il se promenait dans Paris, qu'il faisait ses courses, mais visiblement, il n'intéresse plus le public parisien, ni même les savants ou les intellectuels parisiens, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on vient de voir chez Diderot. Et évidemment, ça, c'est une part il y a une part de mystère. Pourquoi, au final?
Pourquoi?
Parce qu'il était au fond, et on a à peu près le même phénomène avec Mai à Londres. Au fond, il est décevant aux yeux des attentes du public européen parce que il est à la fois pas assez exotique, il ne correspond pas assez aux stéréotypes, justement, du bon sauvage. Et en même temps, il est trop différent pour qu'on puisse véritablement parler avec lui.
Il ne comprend pas le français, alors que Mai semble avoir appris l'anglais.
Voilà, Mai apprend l'anglais, mais même à Aotourou, on lui reproche beaucoup de ne pas réussir à parler le français. Mai va apprendre l'anglais, mais au fond, par exemple, plusieurs vont dire « Bon, mais alors, il a appris l'anglais, mais finalement, il n'est pas pour autant plus intéressant. » Parce que ce qui veut dire quoi? C'est qu'en fait, les Anglais ne s'intéressent pas véritablement à ce que Mai aurait à dire.
Vous mettez en valeur le magnifique portrait de Mai par
Joshua Reynolds, oui. Oui, oui, il y a un très beau portrait. Mais alors, c'est intéressant parce que, justement, ce portrait, Joshua Reynolds a fait 2 opérations. D'une part, il a exoticisé Mai en le représentant avec un manteau polynésien, avec un turban sur la tête qui n'est pas très polynésien, etc.
Et en même temps, il a fait évoluer son visage. Vous montrez les esquisses progressives.
Exactement. Il l'a embelli. En tout cas, il l'a fait correspondre davantage aux critères européens de beauté. C'est-à-dire qu'il a affiné ses traits et surtout, il a éclairci sa peau.
Alors ça, c'est un point. De métaphore, de l'incompréhension ou des miroirs déformants?
Absolument. C'est quelque chose de très intéressant parce que, au début, en travaillant sur cette histoire, ce qui me frappait beaucoup, c'est qu'aussi bien sur Mai et sur Aotourou, je lisais beaucoup de commentaires de l'époque disant oui, mais ils ne sont pas très beaux. Ça me paraissait tout à fait bizarre et anecdotique. On a des voyageurs qui ont voyagé pendant 1 an pour venir d'une île à l'autre bout du monde et on fait des commentaires sur leur beauté. Et puis, j'ai fini par comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un enjeu extrêmement important à ce moment-là, c'est que dans les récits, on l'a entendu tout à l'heure au début de l'émission, dans le récit de Bougainville, il insistait beaucoup sur l'idée que les Polynésiens, les Tahitiens étaient très beaux, étaient grands et beaux. Parce que, évidemment, ça voulait dire qu'ils avaient trouvé à l'autre bout du monde une population qui était physiquement semblable aux Européens. Et on est dans un moment très importante ces années 1760-1770, qui est l'apparition dans la pensée des Lumières d'une pensée racialisante, et notamment des premières grandes typologies qui divisent la population mondiale en races.
Mais pas forcément en hiérarchie au début.
Pas forcément hiérarchique. Plus tard, elles seront hiérarchisées. Mais néanmoins, la hiérarchie, justement, elle intervient comment? Elle intervient par l'idée esthétique, par l'idée de la beauté. Et si bien que le fait que, aussi bien à Aotourou que Mai, ont la peau plutôt foncée, fait que Reynolds, justement, pour susciter l'intérêt, va être obligé de faire ressembler Mai à ces stéréotypes idéalisants que les premiers voyageurs ont rapporté. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit que pour que les Européens s'intéressent véritablement à ces Polynésiens, il faut les faire ressembler, soit par la peinture, soit par la fiction, soit par le théâtre, à ces images fantasmées que les Européens ont projetées sur la Polynésie. Donc à la fois, ils sont véritablement accueillis, ils sont très bien traités, c'est un point sur lequel il faut insister, ils ne sont pas du tout, c'est pas des zoos humains, ils ne sont pas donnés en spectacle, ils ne sont pas esclaves, ils sont très bien traités, ils sont très bien accueillis, mais en même temps, en réalité, ils ne peuvent véritablement intéresser les écrivains, les peintres, le public, que si on arrive à les faire correspondre à ces stéréotypes sans véritablement, en réalité, s'intéresser sur les raisons de leur voyage et de leur présence.
On a beaucoup discuté de savoir si Aruturu et l'autre avaient été obligés de venir ou non, et Bougainville a été amené à s'en expliquer.
Absolument, Bougainville a cette phrase, il est venu de son plein gré et même de sa propre volonté. C'est tout à fait vrai, on a tous les journaux de bord qui permettent de montrer que aussi bien Aruturu que Mai que Tupaya ont voulu s'embarquer, et Bougainville, comme Cook, était très réticent. En fait, il voulait pas, parce qu'il savait justement que c'était prendre une responsabilité, c'était se charger d'un insulaire, et justement, il ne voulait pas refaire ce que les voyageurs au XVIe et XVIIe siècle avaient fait massivement, qui était de prendre, par exemple, un pilote malais, ce qui était souvent fait, de prendre des locaux pour à bord, sans se préoccuper de ce qui deviendrait après. Et donc là, il y avait au contraire cette volonté de ne pas les amener. Mais, par exemple, à Otourou, il s'est imposé sur le bateau, il a souhaité voyager. Et alors, pourquoi est-ce qu'à Otourou, pourquoi est-ce que Mai ont voulu venir en Europe? Alors, ils n'ont pas laissé de témoignages, évidemment, malheureusement, je n'ai pas trouvé les mémoires inédites et secrètes d'Aotourou, mais Mai a beaucoup expliqué, parce que lui, il a passé 2 ans en Angleterre,
après,
il parlait anglais, donc il a plusieurs fois expliqué que, en fait, il venait pour chercher des alliances militaires et des armes. Et ça, c'est une chose très importante que les Européens n'ont pas véritablement... Enfin, ont fini par comprendre, mais tardivement, ce qui n'arrivait pas du tout dans ces îles pacifiques, coupées de l'histoire et du monde. Ils arrivaient dans des sociétés qui étaient marquées par des conflits internes extrêmement forts, et qu'aussi bien Mai que Tupaya et peut-être Aotourou étaient en fait des réfugiés à Tahiti d'une île voisine, qui est l'île de Raiatea, et dont ils avaient été chassés par des guerres locales. Et donc, ils cherchaient des alliés. Ils avaient très bien compris la puissance de feu des Européens. Et Mai, très clairement, est en mission politique et diplomatique en Europe. Mais ça, les Européens, comme ils ne s'intéressent pas aux îles polynésiennes, eh bien, au fond, ça, ils ratent cette dimension.
Sur cette volonté qu'a eu notamment Aotourou de partir, et que Bougainville, pour se justifier de certaines critiques, a beaucoup rappelé... Écoutez donc ce récit par un historien tahitien qui se fonde sur le journal de Bougainville. C'est un extrait de l'émission de Delphine Morel consacrée à ce sujet qui était diffusée dans LSD sur France Culture le 1er septembre 2020.
Quelques jours plus tard, tandis qu'il observait le ciel nocturne, le jeune insulaire nomma une douzaine d'étoiles, montrant celles qui indiquaient le cap de Tahiti, et dit à Bougainville que s'il naviguait nord-nord-ouest pendant encore 2 jours en suivant la direction d'une étoile particulière, il parviendrait à une île habitée par ses alliés et on leur donnerait de la nourriture fraîche et des femmes. Vraisemblablement, Aotourou parlait de Raiatea, même s'ils avaient déjà dépassé l'île. Avec des gestes explicites, Aotourou signifiait soit qu'il avait un enfant à terre, soit qu'il était né là. Et quand le navire continua à naviguer vers l'ouest, il saisit la barre et essaya frénétiquement de la tourner dans cette direction. Lorsqu'un marin lui arracha la barre des mains, Aotourou eut l'air bouleversé. À l'aube, le lendemain, il monta au sommet du mât et y resta toute la matinée à regarder fixement et tristement dans cette direction.
Alors c'est le regard de Bougainville sur votre Aotourou, Antoine Dilty. Est-ce qu'on peut supposer qu'il avait vu juste? Je parle de Bougainville.
il voit pas très clairement, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas très bien ce qui se passe à ce moment-là, parce que Aoturu, on peut le comprendre rétrospectivement, veut s'arrêter à Raiatea, sans doute parce qu'effectivement il veut faire une arrivée triomphale à bord du bateau français, mais Bougainville, qui à ce moment-là ne comprend pas les liens entre les différentes îles polynésiennes, ne le comprend pas, et c'est très intéressant parce que plus tard, Cook pourra parler avec les Tahitiens, mais Bougainville a passé 10 jours, donc il ne parle pas tahitien. Il n'y a pas d'intermédiaire, de truchement, d'interprète. Et à ce moment-là, il n'arrive pas véritablement à communiquer. Et donc, Bougainville note ça dans son journal, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est aujourd'hui, rétrospectivement, qu'on peut donner une signification à ce désarroi d'Aoturu.
Vous pourriez presque, on se le dit en vous écoutant, Antoine Dilty, remplacer le sous-titre de votre livre « Tahiti et la découverte de l'Europe » par quelque chose comme « Le grand malentendu ».
Voilà, c'est effectivement un peu cette idée du malentendu, c'est-à-dire qu'il y a bien la possibilité d'un monde commun, parce qu'en réalité, il y a un intérêt, une curiosité mutuelle, il y a une capacité à communiquer, il y a même une capacité parfois à collaborer. Ça va être le cas notamment de Tupaya avec les Anglais. Donc, il a navigué avec les Européens. Comme je disais tout à l'heure, il les a emmenés jusqu'à... il les a guidés, en fait, par la navigation jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et surtout, il leur a fait connaître, en fond, des éléments de cartographie et de... Ils ont réalisé ensemble ce qu'on appelle aujourd'hui la carte de Tupaya, qui est un exemple tout à fait intéressant de mélange entre les savoirs locaux des Polynésiens et les savoirs de navigation des Anglais. Donc, il y a véritablement la possibilité d'un monde commun, et en même temps, ce monde commun échoue et reste une illusion, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui est souhaité, qui est désiré, mais qui n'a pas de véritable réalité, ou plus exactement, qui ne va prendre forme qu'à travers la fiction et donc l'illusion littéraire ou théâtrale. Donc c'est cette ambiguïté d'un monde commun qui commence à émerger et qui finalement échoue à se réaliser.
Est-ce que le récit du retour inachevé ou manqué pour une grande part de vos Tahitiens exilés jusque chez eux peut exprimer cela de façon en quelque sorte symbolique ou métaphorique?
Oui, absolument. Aoturu, lui, ne retourne pas jusqu'en Tahiti, puisqu'il va mourir pendant le voyage de retour au large de Madagascar. Il y a une épidémie de variole, il attrape la variole et il meurt sur le bateau qui était en train de le ramener à Tahiti. Mais Mai, donc lui, on pourrait dire que l'échec est métaphorique, mais Mai, lui, retourne en Polynésie, il est réinstallé dans une petite île qui s'appelle Wainé, juste à côté de Raiatea.
C'est une autre forme d'échec, puisqu'il est mal reçu en définitive.
Voilà. Et au fond, il croit revenir glorieux. Et d'une part, il ne réussit plus... Enfin, il est mal reçu dans sa société d'origine. Il fait toute une série, d'ailleurs, d'échecs, d'erreurs politiques et diplomatiques. Mais aussi parce que les Anglais, n'ayant pas pris véritablement au sérieux son projet, au lieu de le ramener avec des armes, le ramène à son grand désarroi avec de la vaisselle anglaise. Et donc, il y a cette scène que je raconte qui est assez terrible, où au moment où il ouvre les caisses que les Anglais ont amenées, il est obligé d'exposer sur la plage de Wainé des quantités de porcelaine britannique qui ne lui sont évidemment d'aucune utilité. Et donc là, on est encore dans l'ordre de la déception et du malentendu.
En revanche, avant de mourir de la variole à Madagascar, Aoturu est bien reçu dans l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice d'aujourd'hui. Vous avez... exhumer des textes de l'intendant général Pierre Poivre qui soigne Aoturu comme un personnage très fragile et en même temps très symbolique qui mérite toutes les attentions. Il écrit « Je lui donnerai, outre les outils et instruments en fer de toute espèce, des grains à semer et surtout du riz, des bœufs et des vaches, des cabris, enfin tout ce qui me paraîtra, d'après ses rapports, devoir être utile aux bons Tahitiens qui devront à la générosité française » une partie de leur bien-être. Fin de citation.
Oui, alors vous voyez, c'est intéressant parce que tout à l'heure, Bougainville disait dans le texte qui a été lu au tout début de l'émission, il faut laisser les Tahitiens heureux tels qu'ils sont dans leur mode de vie très primitif, mais c'est comme ça qu'ils sont heureux. Et là, on a quelque chose de très différent dans la logique de Pierre Poivre, qui au contraire, on va, grâce à Aoturu, permettre un développement à l'européenne, en important à Tahiti l'agriculture européenne. Et donc là, tout d'un coup, on passe dans une sorte de paternalisme occidental et français. Grâce à la générosité de la France, les Tahitiens vont pouvoir connaître le développement de l'agriculture, peut-être plus tard de l'industrie, etc. Donc là, on est dans un autre modèle qui est celui d'importer la civilisation européenne, française, à Tahiti.
Du côté du fantasme, la nouvelle Cythère, on ne peut pas faire l'économie de la citation d'un personnage qui s'appelait Philibert de Commerson, que vous citez avec plaisir.
Commerson était le naturaliste de bord de l'expédition de Bougainville et il a écrit un texte qui est publié dans la presse très tôt, dans lequel il décrit l'arrivée à Tahiti. Alors lui, il est vraiment, peut-être c'est le plus rousseauiste de l'expédition, donc lui va justement complètement idéaliser Tahiti et notamment insister beaucoup sur la liberté sexuelle et érotique qui, d'après lui, règne à Tahiti. Donc ça va avoir une énorme influence en Europe.
Et une influence durable, et c'est pourquoi je vais vous le faire entendre. Lu par Jean Bollery dans Entre chien et loup, une émission de Roger Pilaudin sur France Culture, en juin 1972.
Philibert de Commerson, Tahiti ou la nouvelle Cythère.
Né sous le plus beau ciel, nourri des fruits d'une terre féconde, sans culture, régi par des pères de famille plutôt que par des rois, ils ne connaissent d'autre dieu que l'amour. Tous les jours lui sont consacrés. Toute l'île est son temple. Toutes les femmes en sont les autels. Tous les hommes, les sacrificateurs. Et quelles femmes, me direz-vous? Les rivales des géorgiennes en beauté et les sœurs des grâces toutes nues. Là, ni la honte, ni la pudeur n'exercent point leur tyrannie. La plus légère des gaz flotte toujours au gré des vents et des désirs. L'acte de créer son semblable est un acte de religion. Tout étranger est admis à participer à ces heureux mystères. C'est même un des devoirs de l'hospitalité que de les inviter, de sorte que le bon utopien jouit sans cesse ou du sentiment de ses propres plaisirs ou du spectacle de ceux des autres. Quelque censeur à double rabat ne verra peut-être en tout cela qu'un débordement de mœurs, une horrible prostitution, le cynisme le plus effronté. Mais il se trompera grossièrement lui-même en méconnaissant l'état de l'homme naturel, né essentiellement bon, exempt de tout préjugé et suivant, sans défiance comme sans remords, les douces impulsions d'un instinct toujours sûr parce qu'il n'a pas encore dégénéré en raison.
Ce texte de Philibert de Commerson, qui est lu ici par Jean Bollery dans « Entre chien et loup » de Roger Pilaudin sur France Culture le 18 juin 1972, on peut le saisir probablement, Antoine Lilti, comme à l'origine de cette fable de Tahiti qui court jusqu'à aujourd'hui, cette fascination sexuelle qui a été toujours présente chez les Européens, même avant qu'ils puissent y aller en avion.
Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les Européens ont eu très tôt, dès les premiers contacts, les marins français et anglais ont eu des relations sexuelles nombreuses avec des femmes tahitiennes. On a plein de témoignages.
Il reste à interpréter.
Voilà, la question, c'est l'interprétation. Longtemps, en tout cas à l'époque, on le voit avec ce texte de Commerson, mais Bougainville dit la même chose, qui va s'imposer, c'est l'idée, au fond, d'une hospitalité sexuelle, d'une île totalement où la sexualité est totalement libre, une île, au fond, dédié au plaisir de l'amour. C'est pour ça que Bougainville, on a entendu tout à l'heure, a appelé cette île la nouvelle Cythère, une île du plaisir, où non seulement il n'y a aucun préjugé lié à la sexualité, mais où en plus la sexualité a lieu en public, en plein air, elle est un spectacle, et donc presque un rituel de plaisir. Ça va évidemment complètement fasciner les Lumières, parce que le public européen, parce que ça joue sur deux cordes. D'une part, eh bien, ça émoustille la société libertine du XVIIIe siècle. Et puis, de l'autre côté, ça oblige à une réflexion sur les préjugés liés à la sexualité et l'opposition avec un instinct qui serait un instinct de plaisir. Donc, Diderot et beaucoup d'autres vont s'accrocher là-dessus. Alors, au XVIIIe siècle, c'est soit lié effectivement à des anecdotes sexuelles, soit une réflexion, chez Diderot par exemple, plus philosophique sur la question du plaisir sexuel et de la liberté humaine. Et
alors, puis aujourd'hui, on peut avoir une lecture bien différente de ce que constataient
ces voyageurs?
Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on a notamment les anthropologues ont proposé des lectures très différentes. Alors en gros, il y a deux grands types de lectures. L'une qui insiste surtout sur la contrainte dont les femmes, et notamment les très jeunes femmes tahitiennes, étaient victimes. Et elles étaient victimes de contraintes, non pas tant de la part des marins, mais de la part des hommes tahitiens, notamment pour capter le mana, c'est-à-dire le pouvoir symbolique, le prestige de ces nouveaux arrivants.
Parfois aussi un troc contre... Il fallait avoir des clous...
C'est une deuxième lecture qui, effectivement, est plutôt sur l'idée qu'au fond, il s'agit de prostitution, et qu'il s'agit en tout cas d'un commerce, sexualité... pour obtenir des biens, et notamment, il y a un bien que les Européens possédaient et qui intéressait énormément les Tahitiens, qui étaient des clous en fer, parce qu'évidemment, les Tahitiens n'avaient pas de fer, ils ont très vite, très bien compris l'usage qu'ils pouvaient en avoir, qui était d'une très grande utilité, pour pêcher, pour faire des hameçons, mais aussi pour leurs pirogues, pour faire tenir leurs pirogues, et donc ils étaient très, très demandeurs de clous, et on voit, dès les premières semaines, s'installer un véritable marché du sexe et du clou, où le nombre de rapports, de relations, etc., peut être lié au nombre de clous, à la taille des clous, etc. Donc, on a, au fond, ces deux lectures possibles, en partie contradictoires, mais pas nécessairement, donc d'un commerce sexuel et d'une forme de rituel d'apaisement de ces nouveaux visiteurs. Mais les Européens ne l'ont pas compris, d'abord sur place, ils n'ont pas tout de suite compris. Et puis, comme ils ont rapporté ces récits qui correspondaient trop bien, au fond, à ce qu'une partie du public européen attendait, cette idée qu'il existe quelque part une société où la sexualité est totalement libre, dépourvue de toute dimension morale, évidemment, ça a créé un mythe extrêmement profond qui va durer...
Jusqu'aujourd'hui. J'ai écouté un bon nombre, fourni par la discothèque de Radio France, de chansons sur Tahiti. C'est d'une vulgarité sur les libertés sexuelles sous les palmiers qui est très frappante, au point que je n'en ai choisi aucune.
Vous avez bien fait.
En termes démographiques, on a une idée des chiffres de la population à l'époque et par rapport à aujourd'hui?
Les estimations, notamment des archéologues, tournent autour d'à peu près 80 000 personnes à Tahiti même au XVIIIe siècle.
Et ensuite une diminution à cause des maladies.
Voilà, et ensuite ils ont été la population entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, une véritable hécatombe. Et on considère que la population tahitienne a perdu à peu près 90% de ses habitants pour arriver à 10 000, à peine 10 000 habitants à la fin du XIXe siècle. Et donc on insiste toujours beaucoup sur le choc démographique en Amérique de la conquête, et on oublie que les sociétés polynésiennes ont été profondément détruite, bouleversée par la rencontre et par la conquête.
Nous sommes, même vous, Antoine Ilty, quelque peu européocentré dans cette émission. Il faut dire que certains Tahitiens sont allés au même moment dans d'autres directions, en particulier ceux du Pérou, que je trouve intéressant.
Oui, absolument, parce qu'en fait, les Espagnols donc sont traditionnellement chez eux dans le Pacifique, et ils voient d'un assez mauvais œil les Français et les Anglais commencer à envoyer des expéditions et à s'installer, notamment à Tahiti. Et donc, le vice-roi du Pérou envoie une expédition à son tour. Et ce qui est très intéressant, il y a deux choses très intéressantes. D'une part, ils vont, eux, ramener plusieurs Tahitiens. Eux, c'est volontaire, c'est eux qui décident, c'est les Espagnols qui souhaitent ramener des Tahitiens. Ils vont en ramener 4 à Lima, 2 meurent, 2 survivent. Ils les baptisent dans la cathédrale de Lima, ils leur apprennent l'espagnol et ils les renvoient à Tahiti pour servir d'aide et d'instrument à l'installation d'une mission.
Et de truchement, peut-être, comme pour les Amérindiens, voilà, à l'époque de Christophe Colomb.
Exactement.
De traducteur.
Exactement. Et donc là, on a une autre différence avec les Français et les Anglais, c'est que les Espagnols, eux, sont restés dans un modèle de la conversion. Il s'agit de convertir, d'installer une mission pour convertir les Tahitiens.
Ça renvoie au 16e, 17e siècle.
Exactement. Ils sont en grande partie dans cette continuité, ce qui fait d'autant mieux ressortir la spécificité des intentions des Français et des Anglais, qui, eux, ne se posent jamais la question de convertir les Tahitiens. Et Mai, qui passe 2 ans à Londres, à aucun moment, personne n'imagine de le convertir. C'est juste au moment où il doit repartir qu'on se dit, oh, on pourrait lui donner quelques leçons de morale. Il s'agit essentiellement de lui apprendre que l'adultère est mal. Mais ça va pas plus loin. Les Espagnols, eux, en revanche, installent une mission et souhaitent véritablement convertir les Tahitiens. C'est un échec. C'est seulement les Anglais, à partir de la toute fin du XVIIIe siècle, ils vont envoyer des missionnaires où il y aura un effet plus durable. Mais ce qui est très intéressant avec ces Tahitiens emmenés au Pérou, convertis et qui reviennent, c'est qu'il y en a un d'entre eux dont on peut suivre, pas au tout, dont on peut suivre la destinée, et qui est une destinée tout à fait tragique, puisque lorsqu'il revient, il est pris dans un conflit de loyauté absolument terrible entre ses nouveaux amis espagnols et puis sa famille et la société polynésienne. Et très vite, les Espagnols lui demandent de choisir et notamment de renoncer à toutes les formes de rituels qui sont ceux de la religion polynésienne traditionnelle.
Et c'est vraiment le moment intense, symbolique de l'affrontement de deux civilisations.
Exactement. Et là, on voit que cet affrontement, il a des effets psychiques déchirants sur Pautou. Il y a une scène terrible où Pautou retire ses vêtements espagnols et met en garde ses compatriotes tahitiens contre les Espagnols et leur volonté de domination. Et au fond, il est mis à ce moment-là un peu au banc des deux sociétés parce que les chefs tahitiens ont tout à fait, eux, intérêt à commercer, à continuer à avoir des échanges. Et on voit dans les semaines qui suivent, notamment par le récit d'un Espagnol qui a tenu un journal de l'expédition, on voit le pauvre Pautou être tiraillé, balancé entre ces deux sociétés. Mais entre ces deux exigences.
Votre livre, d'ailleurs, Antoine Lilti, sur cette grande aventure des Tahitiens en Europe et en Amérique, est parcouru par cette opposition. Le lecteur, en tout cas, le mesure vite entre, d'un côté, quelque chose comme une douceur qui va contre le mémoire des brutalités de la colonisation, et d'autre part, cette violence que vous venez d'évoquer.
Oui, parce qu'au fond, la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans le Pacifique est un très bon observatoire, parce que on n'est pas du côté de l'esclavage atlantique, des sociétés, des colonies de plantation. On n'est pas non plus du côté de la colonisation violente des XVIe, XVIIe ou plus tard du XIXe siècle. On est quand même dans un moment où on n'est pas un moment colonial. Il y a pas on n'est pas dans un moment de conquête. On n'est pas. Il y a des raconte dans le livre. Il y a des moments de brutalité, de violence, mais il y a d'abord des deux côtés un désir de rencontre, de connaissance, de découverte. Et néanmoins, même ces moments-là sont des moments où, on le disait tout à l'heure, les malentendus, les difficultés, parfois même la violence s'exprime.
Je voudrais que nous terminions notre conversation, consacrée donc à Tahiti, aux Lumières de l'Europe, Antoine Lilti, en nous portant dans le temps vers la fin du XIXe siècle, une sorte de primitivisme où il y a des personnages qui viennent marquer de façon symbolique, là encore, les liens avec Tahiti, avec les réalités ou avec la fable. Je pense par exemple à Loti. Loti, vous nous rappelez le mariage de Loti?
Oui, alors c'est un roman publié donc par celui qui ne s'appelait pas encore Pierre Loti, mais Julien Viau, et qui va devenir Pierre Loti, qui prendra le nom de son personnage, tellement le succès du livre est important.
Officier de marine, oui.
Voilà, officier de marine, qui a passé du temps à Tahiti, et qui écrit en 1872 et publie en 1880 ce livre, Le mariage de Loti, qui a un succès absolument considérable.
Eh bien, voici un extrait. Un extrait lu dans l'émission Tahiti, ou le mythe de l'âge d'or de Nadine Lefébure, qui a été diffusé sur France Culture le 6 décembre 1968.
Le soir, nous étions presque arrivés, Raraou et moi, à la zone centrale de l'île. Au-dessous de nous se dessinaient, dans la transparence de l'air, tous les effondrements volcaniques, tous les reliefs de montagnes. De formidables arêtes de basalte partaient du cratère central et s'en allaient, en rayonnant, mourir sur les plages. Autour de tout cela, l'immense océan bleu. L'horizon montait si haut que par une commune illusion d'optique, toute cette masse d'eau produisait à nos yeux un étrange effet concave. La ligne des mers passait au-dessus des plus hauts sommets. L'Oroéna, le géant des montagnes tahitiennes, la dominait seule de sa majestueuse tête sombre. Tout autour de l'île, une ceinture blanche et vaporeuse se dessinait sur la nappe bleue du Pacifique. L'anneau des récifs, la ligne des éternels brisants de corail. De si haut, nous observions, comme n'appartenant plus à la terre, tous ces aspects grandioses de la nature océanienne. Loti, quelles sont tes pensées? Beaucoup de choses, Rao, que toi tu ne peux pas comprendre. Je pense, ô ma petite amie, que sur ces mers lointaines sont disséminés des archipels perdus, que ces archipels sont habités par une race mystérieuse, bientôt destinée à disparaître, que tu es une enfant de cette race primitive, que tout en haut d'une de ces îles, loin des créatures humaines dans une complète solitude, moi, enfant du vieux monde, né sur l'autre face de la terre, je suis là, auprès de toi, et que je t'aime.
Le mythe visiblement perdure. Antoine Liltou retrouve de nouvelles couleurs à la fin du XIXe siècle.
Oui, alors on retrouve toute une série de thèmes dont on a déjà parlé. Alors évidemment, l'importance de l'amour, hein, donc ce jeune homme, jeune personnage, Loti, donc qui va tomber amoureux. Et donc on a toute une sorte de bluette tropicale.
Un peu dictée de certificats d'études par moment.
Voilà, on peut penser que c'est... Alors, c'est une littérature qui a eu un immense succès à l'époque. Aujourd'hui, bon, on a un peu plus de mal. On peut préférer Ségalène, hein, Les Immémoriaux, qui est une littérature avec un peu plus de souffle et de puissance.
Qui évoque aussi,
effectivement, Tahiti, mais avec une, voilà, plus, à la fois plus de souffle et, pour le coup, un intérêt aussi ethnographique. Mais pour Loti, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a ça. On a l'amour. Tahiti, c'est quoi? C'est l'amour. C'est, et donc, les jeunes femmes, hein, les Vahinées. Donc, on a ce mythe de la Vahinée, ou peut-être plutôt ce cliché, hein, à ce moment-là. Deuxièmement, on a le pittoresque, la beauté des paysages. Hein, là, on retrouve des échos. On a l'impression que c'est une reprise, une sorte des textes de Bougainville et d'autres du XVIIIe siècle. Mais il y a cette description où, au fond, on peut dire que là, l'émerveillement se transforme un peu en carte postale. Et puis, on a la méditation sur la race ancienne, hein, sur cette espèce d'origine du monde. On entendait tout à l'heure Diderot parler de l'enfance ou de l'origine du monde. Et on a toujours cette idée que c'est un lieu où on médite sur l'origine de la race humaine. On a ces éléments qui font un peu système chez Loti, mais aussi effectivement chez Gauguin.
À Gauguin, c'est du côté de la peinture, effectivement. On sait qu'il va s'exiler ou s'installer là-bas.
Voilà.
Et en particulier la correspondance avec sa mère, qui est tout à fait éclairante.
Oui, il y passe plusieurs années. Lui aussi est complètement fasciné par la vie polynésienne, avec toutes les ambiguïtés qui sont liées. Et puis on y retrouve donc voilà ces thèmes qui ont. Et alors c'est très intéressant parce que 1800 ces années de la toute fin du 19e siècle sont aussi, on l'oublie souvent, en parallèle le moment où la colonisation française s'impose véritablement à Tahiti, puisque après Bougainville, ce sont les Anglais qui vont être à Tahiti. Et à partir du milieu du 19e siècle, la France impose d'abord son protectorat, puis son autorité à Tahiti. Une guerre coloniale franco-tahitienne, une guerre à Raiatea qui va durer assez longtemps. On dépose la reine Pomaré. Vraiment, on a un moment... et donc, ces années 1880, cette fin du 19e siècle, on a un retour hein, donc du mythe, mais je dirais sous une forme un peu dégradée, puisque c'est moins une forme de réflexion philosophique et politique qu'une forme d'exotisation et du pittoresque, au moment même où, en fait, Tahiti est véritablement entré à l'intérieur de l'Empire français. Et donc, c'est aussi une manière, finalement, de gommer les formes de violence et de domination qui, à ce moment-là, sont en train de s'exercer plus fortement.
Mais enfin, tout cela nous conduirait jusqu'à la grande question des essais nucléaires, mais nous n'en parlerons pas ici. J'aurais une question plus personnelle. Vous êtes allé à Tahiti, Antoine Liltou, ou bien vous avez préféré, comme tant d'autres, la rêver?
Alors, j'y suis allé. Je l'ai longtemps... Alors j'espère que je ne l'ai pas trop rêvé, en tout cas j'ai longtemps travaillé dessus, et puis j'ai repoussé longtemps l'occasion d'y aller, mais évidemment avant d'écrire ce livre, j'y suis allé, il fallait que j'aille sur place.
J'ai fait l'innocent, mais j'avais lu votre préface.
Voilà, j'explique dans le livre, en fait, j'y suis allé, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est d'essayer de comprendre quelle était la mémoire sur place de ces histoires, de ces personnages, de Tupaia, qui maintenant est devenu une sorte de héros polynésien, d'Aoturu, qui était très longtemps totalement oublié et qui commence à être, dont l'histoire commence à être redécouverte, notamment au départ par des militants. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, à Tahiti, en Polynésie, il y a un courant indépendantiste qui est important, qui se ressaisit de cette histoire. Il y a un revival culturel, un retour aux traditions religieuses, historiques, maoï, hein, polynésiennes.
Le premier ministre actuel, Brotherson, se pose comme indépendantiste.
Absolument.
Et très attentif à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie.
Oui. Alors on est sur un... Oui, c'est vrai. Et en tout cas, c'était effectivement, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement émouvant et touchant d'être en Polynésie et d'être à Tahiti, de pouvoir aussi beaucoup échanger avec les collègues qui eux sont sur place. Voilà, je crois que j'aurais pas pu écrire ce livre si j'étais pas allé sur place.
Eh bien, peut-être ne l'auriez-vous pas non plus commencé si vous aviez été d'abord sur place ?
Il aurait sans doute pas cette forme, en tout cas. Parce qu'il faut aussi échapper d'une certaine manière à cette fascination du mythe.
Eh bien, grand merci Antoine Lilti. Votre ouvrage, je le rappelle, s'appelle « L'illusion d'un monde commun » avec comme sous-titre, vous en êtes expliqué, Tahiti et la découverte de l'Europe. Je vous avais reçu il y a déjà une dizaine d'années pour parler de l'invention de la célébrité. C'était un livre qui avait eu beaucoup d'écho. Et puis, je cite votre ouvrage qui s'appelle « L'héritage des Lumières », peut-être plus général. « Ambivalence de la modernité » aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales à laquelle vous apparteniez à l'époque avant de rejoindre le Collège de France. Une parution Seuil Gallimard en 2019. Je voudrais rendre hommage à la biographie d'Aoturu, puisque Véronique Dorbe Larcade a donné son histoire, Aoturu ou l'envers du voyage de Bougainville à Tahiti. C'est une parution en Polynésie, au vent des îles, en 2023. Antérieurement, Anne Salmon avait donné L'île de Vénus, les Européens découvrent Tahiti au vent des îles, éditeur 2012. Ce livre vous a été utile, Antoine Lilti ?
Oui, c'est un grand livre d'une très grande anthropologue. Donc c'est un livre important.
Elisabeth Badinter, dans ses beaux livres Les passions intellectuelles, avait évoqué ce climat des lumières en face de la longue distance temporelle et spatiale dans Les passions intellectuelles, qui était paru chez Fayard en deux volumes. Enfin, vient de paraître le livre de Bruno Fulini, qui est un historien toujours à l'affût de toutes sortes de choses inédites, d'archives inconnues et de voyages possibles dans des lieux presque improbables, qui donne un ouvrage qui s'appelle « Voyage en France australe », paru aux éditions Alary, un livre très bellement illustré. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Alexandre Martin à la prise de son, Keating Wang à la discothèque et Emmanuel Lucioni pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Ra ba ra ba e, to ti no ra ba ra ba.